Nous allons lire dans la parole un passage qui concerne directement notre sujet et qui se trouve dans le chapitre 4 de la lettre de Paul à l'église d'Éphèse, chapitre 4, versets 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Et voici les versets qui seront au centre de notre méditation. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et voici la fin de ce passage. Et il a donné les uns comme les autres, comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je rappelle le titre de cet après-midi qui est « Le silence d'une pause avant l'éternité ». Que s'est-il passé dans ce temps peu examiné d'ailleurs entre la croix et la résurrection? Il y a là toute une attente. Une attente qui est pas seulement celle du Père des vivants, qui est en train de préparer cette victoire extraordinaire, cette puissance de la résurrection, cette puissance de la résurrection qui remettra tout en mouvement, comme nous l'avons vu hier. Mais il y a également l'univers entier qui attend. Il y a là une pause d'une angoisse, je dirais, cosmique. Oh, certes, il y a d'un côté ceux qui pensent en avoir fini avec ce Jésus né à Bethléem. Jésus de Nazareth se proclame fils de David, qui veut instaurer un ordre nouveau et qui finit par perturber l'ordre au point qu'il semble fournir une âme idéale à ceux qui lui en veulent. Ceux qui lui en veulent, l'ordre établi précisément, qui en profitent pour dire « Tiens, il perturbe l'ordre, eh bien, on va en référer aux Romains. Vous, Romains qui occupez un pays, voyez, ça va pas ça. Il faut éliminer, il faut que pour le bien de beaucoup, un seul meure. » Et comme nous l'avons vu, il a quitté cette terre, non pas parce qu'il a été exécuté par les Romains. Il faudra longtemps pour que le monde sache, et malheureusement, même de nos jours, il ne le sait pas encore. Beaucoup, même parmi les chrétiens, pensent que Jésus est mort suite à ses blessures reçues sur la croix. Or, nous l'avons vu hier, en relisant correctement Ésaïe 53.5. Il n'est pas mort de main d'homme. C'est comme s'il s'était donné lui-même la mort. Il ne s'est pas suicidé. Mais il a pris une telle charge de la détresse humaine que son cœur a éclaté. Il s'est lui-même englouti dans la mort. Les blessures infligées par la cohorte romaine n'ont été que l'étape finale, mais ô combien distante par rapport à l'intensité de la mort qu'il a vécue. Au point que les brigands qui étaient crucifiés à ses côtés
ayant subi une mort, disons une crucifixion identique, n'était pratiquement pas encore mort au moment où les soldats romains ont constaté que Jésus, lui, était mort. Peut-être ont-ils cru qu'il s'était en quelque sorte éteint plutôt que les autres parce qu'il était plus faible. Ils savaient par oui dire, c'était un homme spécial, ce Jésus, qui vivait en dehors des foules. Et d'après leur loi stricte romaine, ils se disaient, c'est l'opposé d'un soldat, ça devait être un de ces, disons, les gens qui vivent dans l'ascétisme, un de ces ascètes, et qui ne résistent pas longtemps. Mais ils ne savaient pas, ces soldats romains, que ce Christ qui venait de mourir venait d'opérer un retournement extraordinaire de l'histoire. Car en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va infliger à la mort sa défaite la plus cruelle. En effet, si on regarde Satan et sa panoplie d'armes, il est le père des menteurs, il est meurtrier depuis le commencement, nous le présente la parole, son arme favorite est le mensonge. Une arme extraordinaire. D'ailleurs, j'ai été frappé de voir, en lisant le Nouveau Testament, dans le grec, le mot mensonge est traduit par pseudos. Pseudos. Vous savez ce que ça a donné en français. Les pseudonymes, les pseudo-ceci, pseudo. Faire semblant de, ayant l'apparence de, mais étant autre chose. Le mensonge de Satan n'est pas un énorme machin qu'on avale. Le mensonge satanique a toutes les apparences de la vérité, car il s'appuiera sur la parole divine pour infiltrer son mensonge. En dehors de l'Église et dans l'Église. Il s'appuiera sur les éléments les plus sûrs de la parole pour tenter Jésus. Mais à chaque fois, il sera repoussé, père des menteurs, meurtrier, car il a amené la mort, la vraie mort sur la terre. La mort physique n'était pas la mort, ce n'était qu'un sommeil. Mais par suite de la tentation, il a plongé l'homme dans une mort éternel. Vous vous rappelez, hier, nous avons mentionné cette capacité d'esprit, cette capacité spirituelle qui existe dans tout être humain. Car Dieu crée l'homme dans cette perspective d'en faire un jour un être spirituellement vivant, et à ce moment-là seulement prendra-t-il sa vraie dimension. Cette capacité spirituelle, au moment de la chute, se ferme à tout contact divin. À cause de la chute, il n'y a plus de communication possible entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Il faudra tout le rachat, la puissance de rachat de la croix, pour ôter cet interdit et ramener de nouveau cette capacité spirituelle dans la possibilité un jour de communiquer avec l'Esprit de Dieu. Car même lorsque l'homme se tourne vers Dieu, c'est l'Esprit qui opère cela. Jamais l'homme par lui-même ne peut se tourner vers Dieu. Combien de fois, dans ce semblant de ministère que j'ai, car je ne suis pas ni pasteur, ni théologien, je ne suis pas à plein temps, comme on dit, je suis physicien nucléaire, mais il m'arrive de rencontrer des gens à l'occasion des conférences publiques que je donne pour annoncer l'Évangile. Conférences contradictoires même, j'accepte la contradiction pourvu qu'elle se fasse dans l'ordre. J'ai parlé à la télévision, à la radio, j'ai eu affaire à des intervieweurs, mais extrêmement corrosifs, qui avaient pour but, dans toute émission de ce genre, de démolir, de tailler en pièces les croyants, pour le ridiculiser aux yeux de millions de téléspectateurs. J'en ai eu. Et d'ailleurs, ça s'est passé à la télévision belge, une fois. Je connaissais tous leurs trucs pour essayer de mettre les gens en ridicule. Et quand ils posaient une question, je me tournais vers les caméras et je leur montrais l'intervieweur en faisant un petit signe au caméraman de braquer la caméra sur l'intervieweur. Ils disaient, voyez cet homme en train de poser une question et d'ailleurs il se fait l'interprète de beaucoup d'entre vous, vous téléspectateurs. Eh bien moi je vais vous dire pourquoi il pose cette question. Et je montrais toute la faiblesse de sa position. Je ridiculisais non pas l'homme, mais la faiblesse de ses théories, soi-disant la science qui explique tout, etc. C'est toujours là-dessus qu'il partait. Et je montrais pourquoi il posait cette question. Alors, l'intervieweur, absolument décontenancé, essayait de se rattraper et lançait une question encore plus méchante. Et le même scénario recommençait. Au point que l'émission, celle-là tout au moins, eut un succès considérable et passée 3 fois sur les écrans de Belgique, et même maintenant, elle a été convertie en émission radio. Vous voyez, le monde a besoin de voir exposer le mensonge de l'adversaire, qui utilise des pauvres gens comme les intervieweurs, qui sont sous la domination du mal pour certains, pour essayer de ridiculiser un enfant de Dieu qui est le dépositaire d'une victoire, et qui dit victoire dit défaite de l'adversaire. Car en fait, il faut savoir de quel côté on se tient. Nous tenons-nous du côté d'une victoire assurée par la croix? Alors à ce moment-là, tout devient possible. Il suffit d'être guidé par l'esprit, que l'esprit nous montre la cuirasse de l'adversaire où se glisse le mensonge, et de le dénoncer avec la dernière des vigueurs. Le monde a besoin d'entendre cela. Mais même quand le monde entend cela, et j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de gens qui avaient écouté l'émission, et même par la suite, à la suite de conférences, j'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient se convertir et qui n'y arrivaient pas. Parce que même se convertir est donné de Dieu. Dieu est en contrôle absolu de l'être humain. Ici, ce n'est pas le cadre pour parler de cette utopie qu'on appelle la liberté de choix. C'est une utopie. Parce que, avant de parler de liberté de choix, il faut définir la liberté. Or, en fait, pour être libre de choisir, il faut être libéré. Or, il n'y a qu'en Christ que l'on est libéré. Donc la seule liberté de choix n'existe qu'en Jésus-Christ. Vous voyez comment on démonte l'édifice du mensonge. Et on peut aller loin. Les philosophes ne font pas peur, vous savez. Parce que c'est du creux. Et souvent, celui qui les anime est le père des menteurs. Et une fois qu'il a été exposé, lui, devant toutes les dominations célestes, comme étant un être ridicule dans son mensonge, eh bien, c'en est fini de sa victoire. Honneur où est ta victoire? Eh bien, l'homme peut se convertir que dans la mesure où l'Esprit de Dieu pénètre dans sa vie. Le premier contact de ce vase vide, cette capacité spirituelle avec l'Esprit de Dieu, c'est une lumière intense qui jaillit, et d'un seul coup, l'homme découvre sa condition d'être perdu irrémédiablement. Voilà la puissance de l'esprit en action. À ce moment-là, il se voit comme tel, et en même temps, il voit toute l'étendue de la grâce divine, d'un Christ qu'il a aimé avant que cet être n'existât, dès avant la fondation du monde, Dieu le connaissait. Et connaissant cette grâce, il ne peut que fondre devant l'amour de Dieu. Certains résistent pour un temps, mais à leur tour, se rendent. Et vous voyez, c'est encore l'Esprit de Dieu en action. Partout l'Esprit de Dieu. Ce même Esprit va descendre avec Christ dans cette mort. Ce même Esprit va, en quelque sorte, amener Christ à accomplir sa mission jusqu'au bout. Car l'adversaire, jusqu'au dernier moment, ne sait pas quel est le tour que le Père de toute création est en train de lui jouer, si j'ose dire. Il ne comprend que près de 3 heures avant la mort de Jésus. D'un seul coup, il réalise que l'objectif de Jésus n'était pas de régner sur la terre. Il l'avait tenté, il voulait qu'il règne à ses conditions à lui, rappelez-vous, dans le désert. Il avait raté son coup. Et il pensait que Jésus avait ses propres moyens pour régner, et d'un seul coup, il réalise que c'est après lui qu'il en a, lui Satan, et il en a après son arme ultime, au-delà du mensonge, au-delà du fait qu'il a coupé et qu'il a tué spirituellement l'être humain, il en a après la mort. La mort, c'est-à-dire, non pas la mort physique, mais cet extra de puissance qu'il a volé au moment de la chute de l'homme, pour couper définitivement l'homme de Dieu. Cet extra de puissance qui fera qu'à chaque fois qu'un être se présente devant l'heure ultime, au moment où il va traverser, comme on dit, la grande rivière, il est saisi d'une angoisse terrible, car il sait qu'au-delà de cette rivière, il n'y a plus de point de retour. C'est terminé, lui ayant été créé pour une communion éternelle avec Dieu, se retrouve, au-delà de ce grand passage, dans une éternité d'absence divine. Il le sait, il le réalise. Voilà l'arme ultime de Satan. Eh bien, Jésus, pour vaincre Satan sur son terrain idéal, dans son arme la plus forte, va épouser cette mort. Il va devenir mort lui-même. Il va descendre au séjour des morts. Souvent on dit, quand un être juste meurt, son âme remonte vers le ciel, vers le Père qui l'a engendré, le Père céleste. Alors beaucoup se sont dit, peut-être que Jésus est aussi remonté vers son Père. Et non. Il a épousé la mort au point de se laisser engloutir avec elle. Vous savez, un peu comme quelqu'un qui essaye de sauver un noyé et à ce moment-là précis, le noyé coule et comme si la personne n'avait pas la force, elle coule avec lui jusqu'au fond. Eh bien, Jésus a délibérément coulé jusqu'au fond. Il a épousé la mort car, ayant enveloppé la mort, si j'ose dire, il lui a tordu le cou. Il l'a absolument détruite. Cette mort, mort éternelle. C'est ça dont je parle. Je ne parle pas de la mort physique, c'est pour la troisième fois que je le répète. La mort éternelle a été engloutie avec Christ et parce qu'il l'a vaincue, et ne pouvait le faire que parce qu'il était fils de Dieu, mais encore fallait-il qu'il épouse cette mort avec toutes les affres de l'angoisse et qu'il descende au séjour des morts, à ce moment-là seulement, a-t-il pu ressusciter, puisque la mort était vaincue, ne pouvait plus le garder. Il est ressuscité, et il a également montré que la mort physique, un jour aussi, aurait une fin. Mais cette mort physique n'aurait de fin qu'à la fin des temps. Lorsque tout ce qui est vivant cessera d'exister, lorsque le temps et l'espace disparaîtront, et que tout retourne à l'éternité. À ce moment-là seulement, la mort physique disparaît. Mais en attendant, la mort a perdu son aiguillon, cette extra puissance, cette usurpation. Elle a disparu. Elle redevient le sommeil qu'elle était avant la chute. Ce qui fait que lorsqu'un enfant de Dieu meurt, il s'endort. Il retourne vers la patrie céleste, dans la communion du Père. N'est-ce pas cela que l'on puisse souhaiter pour chacun de nous ici et pour tous ceux qui nous sont chers? Lorsqu'ils traverseront cette rivière, ils sauront qu'ils iront vers la patrie céleste. Plus d'angoisse, plus de crainte. La mort a été vaincue. Voilà l'un des grands messages de la croix, de la victoire par la croix. Et d'ailleurs, ce thème de la mort vaincue par la mort, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui le reprend au chapitre 2, au verset 14. J'aimerais que nous le lisions pour bien nous le fixer dans l'esprit. Hébreux, au chapitre 2, au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, lui Jésus, afin que, par la mort, il anéantit celui qui est la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà, en un mot, un résumé beaucoup plus parfait que tout ce que je vous ai dit. Il a pris la mort. Il s'est identifié à la mort, et par la mort, il a anéanti la mort pour libérer de la servitude de la mort ceux qui étaient opprimés. Ce n'est pas la résurrection qui a vaincu la mort. La résurrection n'était que la signature de cette victoire. L'écriture, l'expression de cette victoire. Quand un ennemi est vaincu, il ne peut plus vous retenir, prisonnier. Parce que la mort était vaincue, Jésus n'était plus retenu prisonnier par celle-ci, il est sorti ressuscité. Et c'est ce qui se passera pour nos corps. Lorsqu'un jour, la mort devra aussi disparaître complètement et nos corps retourneront à l'éternel dans une dimension glorifiée qui est d'ailleurs impossible à imaginer. Ne faisons aucun effort dans ce domaine. N'essayons pas de vivre par la pensée ce qui va se passer de l'autre côté, mais il se passera certainement des choses extraordinaires. Alors, puisqu'il a vaincu la mort, c'est qu'il a en fait couvert l'univers entier. Vous savez, souvent la parole nous donne une géométrie de l'univers, si j'ose dire, j'ose introduire le mot géométrie, car elle donne des niveaux. Elle parle des cieux, de la terre et de ce qu'il y a en dessous de la terre. En quelques mots, les cieux, ce n'est pas l'azur au-dessus de nos têtes, la terre, notre planète, et en dessous de la terre, là, le magma à haute température, ça n'a rien à voir. Les cieux, le monde de l'invisible, le monde des esprits, des dominations célestes, créés avant le monde visible. Dieu créa les cieux et la terre. Voilà l'ordre. Ensuite, le monde matériel, visible, tangible, mesurable, palpable. Je vous donne le choix du mot. Le monde qui nous entoure, ce que nous voyons nous-mêmes, qui n'est qu'une partie de nous-mêmes, car notre vrai nous-mêmes, nous ne le voyons pas. En fait, nous pourrions voir si Christ était réellement en nous. Et dans la mesure où Christ vit réellement en nous, alors quelque chose rayonne qui nous donne une vision de notre vrai nous-mêmes. Et c'est tout le thème poursuivi par la parole. D'ailleurs, dans la lettre à l'église de Corinthe, la seconde, au chapitre 4, il prévient gentiment ces gens à qui il écrit, vous savez, nous ne regardons plus Christ de cette manière, et en fait, nous ne regardons plus personne de cette manière, c'est-à-dire chair et sang, c'est-à-dire psychisme, c'est-à-dire nous étudier tels que nous sommes, pas seulement biologiquement, mais psychiquement. Tout ça, c'est peine perdue. Car le fond des problèmes se trouve dans l'invisible, le domaine spirituel, un esprit coupé de Dieu, où l'esprit de Dieu ne peut entrer, eh bien, voilà le centre de tous les problèmes. Voilà le centre de toute la corruption de notre société. Voilà d'où part tout le mal. C'est pas la peine de chercher le mal dans le psychisme. Certes, le psychisme sera dérivé comme conséquence, et peut-être même le biologique. Mais le vrai problème est dans l'invisible de l'homme. Voilà la vraie dimension de l'homme. L'homme est à la charnière entre les cieux et la terre, si j'ose dire. Dans une image peut-être approximative, on pourrait le représenter précisément comme ayant les pieds sur terre et le reste dans les cieux. C'est-à-dire, en fait, une nature où l'invisible est le plus important, est éternel, et ce qui est visible est passager. D'ailleurs, là encore, Paul le rappelle, les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Eh bien, la terre, ça va beaucoup plus loin que la terre terreau, c'est la terre, le monde de la matière. De la matière, et quand il est dit que tout retourne à la poussière, qui est synonyme de la terre, ça veut dire que tout retourne à l'élémentaire. Vous avez déjà brûlé du bois, vous savez que ce qu'il reste, cette cendre, c'est, à part quelques utilisations pratiques, pour certaines ménagères, dans le temps on faisait un peu de lessive avec ça, si je ne me trompe pas, mais avec la cendre, on ne peut rien faire. On ne peut plus rien reconstituer avec la cendre. Avec la terre glaise, on peut encore faire un pot, un vase, mais avec la cendre, rien du tout. La poussière de la terre, c'est cela. C'est à cela que retourne le corps. Et il y a encore un monde en dessous de la terre. Et j'aimerais rappeler ce verset qui a été lu tout à l'heure, dans Éphésiens, au chapitre 4. Il est dit ceci, au verset 7 à 10, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, « Étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. Dieu a voulu montrer sa souveraineté par un contrôle absolu, une autorité totale dans toutes ces régions, depuis les cieux, ce qui est au-dessus des cieux, au-dessus de l'invisible, toute la divinité, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il fallut que Christ ait descendu dans ses profondeurs, pour que même là où le séjour des morts règne et aspire toutes les âmes qui traversent la rivière sans appartenir au Seigneur, connaissent que Christ est maintenant roi partout. Certes, Dieu ne demeure pas aux enfers. Dieu ne demeure pas dans cet endroit qui est pour un temps le royaume suprême de l'adversaire de nos âmes. Mais un jour même, ce domaine sera évacué pour le jugement dernier. Et ceux qui auront délibérément, mais délibérément tourné le dos à la grâce, auront des comptes à rendre et retourneront avec celui qui a été le roi dans ce domaine pour une éternité de séparation avec Dieu, dans cet étang ardent de feu et de soufre. Mais Christ a voulu montrer qu'il avait l'autorité partout, il est descendu aux enfers. C'est tout cela le samedi saint. C'est tout ce qui s'est passé entre le moment où son âme, son esprit a quitté ce monde et au moment où il réapparaît sur terre, glorieusement ressuscité. Déjà corps glorifié, corps qui se joue des lois du temps et de l'espace. On peut le trouver ici, instantanément on peut le trouver ailleurs, il passe à travers les portes, il est immatériel, c'est ce que nous sommes appelés à être. Mais entre les deux, il y a cette descente aux enfers, où en fait il traduit son autorité absolue. Et vous remarquerez le contexte du passage qui nous le révèle, ce passage d'Éphésiens qui a été lu par notre frère. Immédiatement après les mots que nous avons lus, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Alors certains se grattent la tête et se disent, mais quel est le rapport? D'un seul coup, du monde des enfers, on nous parle d'apôtres, d'évangélistes, de pasteurs, de... Enfin, vous connaissez le passage aussi bien que moi-même. Pourquoi? Eh bien, parce que là encore, c'est l'écho d'autres passages de la parole qui rappellent la mission de l'Église. Si Christ a couvert de son autorité toute l'étendue de l'univers visible et invisible, depuis au-dessus des cieux jusqu'en dessous de la terre, c'est pour que nous, nantis de cette autorité, nous le rappelions sans cesse à l'adversaire qui ne subsiste encore sur cette terre au niveau de ce que nous connaissons comme violence, comme haine, comme corruption, comme dérèglement moral et autres, pour que nous proclamions devant l'adversaire par des faits concrets qu'il est vaincu, qu'il n'a aucun domaine où il est roi maintenant. C'est terminé. Christ a montré son autorité dans tous les domaines. Et pour ce faire, l'Église va s'organiser avec, en quelque sorte, des directions d'annonce de ce message. Et la direction apostolique, la direction pastorale, la direction prophétique. Il y a beaucoup d'azimuts, si j'ose dire, pour utiliser encore un terme de géométrie, de directions d'azimuts, dans lesquelles l'Église va manifester l'autorité absolue de Dieu en Christ sur tout l'univers. C'est-à-dire que partout où Satan tient encore des bastions, alors qu'il est vaincu, et comment tient-il? Voilà la grande question. Parce que cette question, elle a une consonance peut-être théologique pour certains, mais moi je vous la traduis exactement et immédiatement en forme de question de l'homme de la rue. Si Dieu existe, pourquoi tout ce mal sur la terre? Voilà la question de l'homme de la rue, qui est exactement la même, mais posée sous des termes plus peut-être théologiques. Eh bien, parce que nous, soi-disant celles de la terre, nous n'avons pas encore annoncé la victoire de Christ d'une façon concrète, pas forcément verbale, là où Satan règne. Il règne par le mensonge. Les gens sont sous l'emprise du mal parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont été délivrés déjà à la croix. Ce n'est pas une délivrance à accomplir, ce n'est pas une victoire à accomplir. Il n'y a plus rien à accomplir derrière ces trois paroles, tout est accompli. Tout est déjà fait, il suffit d'entrer dans une victoire accomplie. Il suffit de proclamer, de vivre cette victoire. À partir du moment où ma vie reflète d'une façon intense, interpellante, presque désagréable, autour de nous par cette lumière, le monde des ténèbres, eh bien, ceux qui sont sous l'emprise du mal se posent des questions. Vous savez, ils écouteraient peut-être notre témoignage, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut qu'ils voient, au-delà de nos paroles, il faut qu'ils voient la réalité de Christ. Ce ne sont pas nos paroles qui vont les convertir. C'est la réalité puissante d'un Dieu vainqueur sur Satan. Et à partir du moment où, dans d'autres formes d'expression du règne de Satan, un règne usurpé, il n'a plus le droit de régner. Mais Dieu le laisse pour un temps, dans sa sagesse que nous ne comprenons pas. Si à ces endroits de règne, nous proclamons la victoire de la croix sur des êtres liés par l'adversaire, au point d'être des pôles de violence, des êtres terrassés par la maladie, des êtres terrassés par l'angoisse, si nous proclamons au nom de Jésus, si nous lions au nom de Jésus ce qui a déjà été lié dans les cieux, si nous le lions sur terre, à ce moment-là, nous voyons Satan reculer et lâcher sa proie. Voilà la mission de l'Église. C'est pour cela qu'il a établi les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, comme évangélistes, prophètes, docteurs, et surtout en vue du perfectionnement des uns et des autres. Car n'oublions pas cette perspective que nous avons découvert depuis le début de ce que nous étudions. Il y a un mouvement. Tout est remis en mouvement. Il y a un mouvement. Et dans ce mouvement, nous aussi, nous sommes pris. Nous sommes en route cette fois-ci pour la perfection. Et Dieu veut nous amener à la perfection. Et la meilleure façon de nous amener à la perfection, ce n'est pas de rester tranquille dans un coin, c'est de nous engager dans cette lutte qui consiste à montrer le mensonge où il est, peut-être sans parole, uniquement par une vie humble, mais reflétant l'amour de Dieu, et en révélant cette victoire, faire reculer les ténèbres, et nous, par la même occasion, nous faisons un pas en avant, car cela coûte. Ce sont des épreuves. Nous avons tous traversé des épreuves. Mais les épreuves ne sont pas des ratés de l'existence. C'est exactement dans le schéma divin. Des épreuves qu'il permet, un peu comme l'ingénieur teste des aciers avant de les utiliser dans des spécifications précises. Moi, je vous disais hier que j'étais responsable de la faisabilité du réacteur atomique de l'espace au niveau des matériaux. Et je dois étudier dans quelle mesure les alliages réfractaires qui fonctionnent à très haute température, des noms qui vont vous charmer ou vous déplaire, peu importe, il y a des tungstènes titanes, il y a des tantal hafnium, des tantal osmium hafnium et des choses comme ça. Ça paraît du grec ou du latin pour vous, mais ce sont des métaux pour l'espace, pour les piles atomiques de l'espace. Eh bien, il faut que nous testions ces matériaux. Et il faut voir le genre de test que nous menons, ça coûte très cher. Il faut aller jusqu'à au moins 60 milliards de tests, car le réacteur qui sera dans l'espace devra rester là-haut sans panne pendant au moins 7 ans. Vous savez, des piles atomiques qui sont restées sans panne sur Terre pendant 7 ans, ça n'existe pas. Elles sont toutes au moins tombées en panne dans la première année. Alors vous voyez un peu les spécifications serrées. Donc il faudra que je fasse tester par des spécialistes de matériaux ces nouveaux alliages qui fonctionnent à des milliers de degrés pendant plus de 60 000 heures, 61 000 heures, c'est à peu près 7 ans, hein, pour voir comment ils se comportent, et dans des milieux terribles, corrosifs, c'est des métaux liquides qui passent dessus, et puis en plus il y a des gaz qui les détruisent, etc. Il faut qu'ils tiennent le coup pendant 7 ans. Et alors à ce moment-là, ils permettront une réalisation extraordinaire. C'est la même vision pour le corps de Christ. L'ennemi se déchaîne, sait qu'il vit ses dernières heures de son histoire sur terre, de domination par le mensonge et le meurtre. Mais, en face de lui, il y a le corps de Christ en formation, en pleine gestation, et qui s'oppose, non seulement d'une façon passive au mal, mais d'une façon active, qui lui rappelle sans cesse à cet ennemi qu'il a été vaincu. Alors vous pouvez imaginer quel texte cela représente. Voilà tout le sens de l'épreuve. Et nous passons tous par des épreuves. Et j'avais promis à plus ou moins un grand nombre de personnes, bien humblement, de vous donner mon témoignage cet après-midi, car j'ai traversé une grande épreuve. Je suis assez discret sur ce qui m'arrive personnellement, je n'aime pas me mettre en avant, mais ce que j'ai vécu a une dimension de corps de Christ. Il y a une grande leçon pour moi d'abord, et pour beaucoup d'autres après. Et c'est uniquement pour cette raison que je vous livre le témoignage suivant. Ça fait déjà depuis plusieurs années que j'étais en Angleterre dans un projet de fusion thermonucléaire où le travail demandé était assez harassant car nous n'étions pas assez, nous avions des tâches phénoménales et en plus de mon travail, comme vous le savez puisque vous m'avez vu ici il y a quelques années, je passais une partie de mes vacances, disons les trois quarts, plus des week-ends, aller à droite à gauche, répondre, un peu comme Pierre qui dit qu'on doit à tout instant être prêt de donner raison de sa foi, non pas de montrer que la raison est une arme de la foi, c'est pas ça du tout. Donner raison de sa foi, ça veut dire montrer pourquoi cette foi non seulement est solide, mais pourquoi elle interpelle le monde et pourquoi c'est la réponse, c'est le canal par lequel je peux entrer dans un autre niveau de vie. Alors, je circulais, et bien sûr, tout cela s'ajoutait à ma fatigue, mais la fatigue n'est qu'un tout petit élément qui a amené une dépression réactionnelle aiguë. C'est le terme médical. D'ailleurs, le diagnostic a été fait par un docteur qui ne vit pas loin d'ici, j'ai oublié son nom, mais il habite Cormondrèche. Comment en suis-je arrivé là? Et la grande question qui m'a été posée est la suivante. Comment se fait-il encore qu'un serviteur attrape le cancer, qu'un serviteur de Dieu attrape la grippe, bon, ou une autre grave maladie? Mais la dépression, c'est incompréhensible. Eh bien, nous allons suivre la trame des événements et tenter d'apporter une réponse à ces diverses questions. La dépression, d'une façon générale, est une maladie des plus épouvantables qui soit. Certains la mettent au-dessus du cancer au point de vue épreuve, parce qu'elle touche non seulement le psychisme et le corps, mais aussi l'esprit. En d'autres termes, un chrétien atteint de dépression est complètement coupé de Dieu. Il n'a plus aucune communication ni avec Dieu, ni avec ses frères et sœurs. Comment en étais-je arrivé là? Alors je reprends la trame des événements. J'étais donc dans ce projet, et ce qui a fait l'accélération du phénomène, ce n'est pas tant la fatigue physique qui y a contribué, bien sûr, et là peut-être j'ai appris un peu de sagesse, c'est pour ça que je voyage moins maintenant, mais c'est surtout le conflit qui s'est établi au sein du projet à cause de cela. En effet, nous avions comme directeur un homme spécialiste dans l'informatique qui venait de Genève, il était directeur adjoint du CERN avant d'être nommé en Angleterre dans ce projet européen. Et ce projet européen constituait une enclave européenne en Angleterre, c'est-à-dire que la loi anglaise n'avait de prise sur le projet que dans deux domaines, la sécurité du personnel et le côté commercial. Le reste était entièrement entre les mains de la communauté européenne. Je me permettrai une réflexion personnelle. Vous, les Suisses, vous avez bien fait de ne pas la joindre. C'est tout. J'arrête ma réflexion là. Et alors, peut-être qu'il y en a qui sont d'un avis contraire, mais ça, c'est mon avis. Cette communauté européenne se traduisait par beaucoup d'idées. Je ne parle que du domaine scientifique. Une grande répartition de crédits sur la recherche dans la fusion. Et il y avait beaucoup de laboratoires qui y travaillaient. Mais le problème, c'était toujours l'autorité. L'autorité dans le sens de qui prend la décision finale et dans quelle direction. Vous savez que l'Europe est dominée par un conseil des ministres. Il n'y a pas d'homme supérieur, comme dans tout gouvernement où il y a quelqu'un au-dessus. Non. Et souvent, les conseils étaient dépassés par la spécificité des problèmes et passer, si vous voulez, l'emblème de l'autorité, de la décision, à des organismes inférieurs. Et dans notre projet, nous avions aussi un conseil, le conseil scientifique, qui était d'ailleurs dirigé par un Français, le professeur Théac, que je connais bien, et ce directeur du projet figurait comme membre de ce conseil. Il avait son poids aussi auprès des décisions à prendre. Mais cet homme, de par son passé d'être organisé, je vous le dis tout de suite, il était allemand, sens de l'organisation, de l'autorité, a vu tout de suite la faiblesse de ce système en ce qui concerne son projet dont il était le directeur. Alors, il a lâché un peu de son autorité scientifique auprès du Conseil et en retour, il a demandé à l'Europe qu'il lui donne une autorité absolue dans le projet. Une autorité absolue, non seulement sur les choses, mais sur les êtres humains. Plus de comités d'entreprise, plus de syndicats, plus de conseils, rien. C'était une domination totale. Et il a placé les hommes à lui, dans toute la hiérarchie, et par la suite on l'a appris, bon, il faisait tourner la boutique d'une façon organisée, bien sûr, mais il devait renseigner le directeur sur l'activité du personnel pendant les week-ends et les vacances. Dans quel but ? Il ne fallait pas que ces activités soient contraires à l'esprit scientifique du projet. Alors, vous rendez compte, pour quelqu'un qui n'a pas réussi à réconcilier science et foi, et qui en fait les voyait opposés, eh bien, pour un homme comme ça, j'étais tout de suite dans sa ligne de tir. Immédiatement, il a su, par hiérarchie interposée, que j'étais de ceux, ou plutôt j'étais le seul, en fait, à passer mes dimanches et une partie de mes vacances à répandre l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et ça, il l'a trouvé incompatible avec mon travail de scientifique. Parce que, à partir du moment où je dévouais mon enthousiasme, mon esprit, il pensait que c'est mon cerveau qui préparait les sermons, etc., ou les messages, ou les conférences, eh bien, c'était ça de moins pour la science, donc j'étais moins utilisable par la science. Et de ça, il m'en a voulu. Il me l'a fait savoir, surtout à la fin des 5 ans de la première phase des contrats. En effet, le projet avait démarré dans une phase conception de la machine. Celle-ci s'était passée en dehors de ce directeur, c'était juste une petite enclave à ce moment-là. Et ensuite, quand le projet a pris corps, c'était la phase construction de la machine, où mes compétences avaient été utilisées. Et au bout de ces 5 ans de construction, le projet devait passer dans la phase fonctionnement de la machine. Alors à ce moment-là, on faisait un petit changement. En fait, on n'enlevait personne du projet. On ajoutait du personnel, beaucoup de scientifiques, physiciens venaient, donc des gens moins machines, beaucoup plus expérience sur la machine, et on gardait les autres parce qu'ils avaient conçu la machine, donc on avait besoin d'eux. Pas tous, parce que ceux qui étaient des poisons violents, on s'en débarrassait. Alors, sur les 350 scientifiques, 5 se sont vus le contrat prolongement refusé. Deux d'entre eux ne voulaient plus rester dans cet esprit de projet qui était devenu épouvantable. Quand je pense que je ne pouvais pas voir sur ces sujets sensibles, ces sujets délicats, mon chef immédiat en restant dans mon bureau, parce que ça pouvait être écouté à travers les cloisons, il fallait marcher dans le couloir et parler à voix basse. Vous voyez, c'était devenu un système totalitaire, je le dirais jusqu'ici. Et donc, mon contrat... Enfin, cet esprit a créé un malaise et 2 scientifiques sont partis, ont dit, on ne veut plus entendre parler d'un projet comme ça. Ils sont partis à contre-cœur parce que, vous savez, on gagne beaucoup dans ce projet. Si je compare le salaire que je touche en France, qui est un salaire respectable, eh bien, dans ce projet, je touchais presque 2 fois plus. Alors, vous savez, on les tenait par là, les gens. Ils sont partis quand même, ces deux-là. 2 autres sont partis parce qu'ils avaient fait des fautes professionnelles, qui n'étaient plus compatibles avec une prolongation ultérieure de leur travail dans le projet. Et j'étais le 5e. Le 5e, on n'a jamais su, en fait, jusqu'aux événements que je vous raconterai, on n'a jamais su pourquoi, en fait, à l'époque, j'avais été refusé. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de ce refus ? Eh bien, un chef de département, un Français que je connaissais bien, est venu me voir, dans les couloirs, et m'a dit discrètement, va voir le directeur, si tu veux avoir encore une petite chance de voir ton contrat, parce qu'il en a un gros après toi, si tu veux encore avoir une petite chance de voir ton contrat prolongé, va lui dire que tu arrêtes toutes ces activités religieuses, comme il les appelait, et que tu rentres dans le rang. Alors évidemment, vous devinez ma réponse. C'était non. Eh bien, il a dit, tant pis pour toi. par la suite, j'ai appris que dans ce dernier conseil supérieur qui s'était réuni au sein du projet pour réexaminer les candidatures, vous voyez, on s'y prenait avec plusieurs rappels pour étudier les candidatures que l'on faisait reculer. Eh bien, quand mon nom est venu, trois chefs de département m'ont réclamé envers et contre tout, parce qu'ils avaient besoin de mes compétences, et à ce moment-là, le directeur est entré dans une phase extrêmement violente de caractère, une colère où il s'est mis à hurler, à taper les poings sur la table, et en disant « je ne veux plus entendre parler de cet être-là, et surtout n'essayez pas de revenir, le faire revenir dans le projet, car s'il fallait qu'il revienne, il passerait sur mon corps mort, sur mon cadavre. » Je l'ai appris que beaucoup plus tard, ça se passait au mois de juillet 83, mon contrat se terminait fin août. Et sur le site anglais, non pas européen, il y avait des réunions chrétiennes, comme c'est autorisé par la loi britannique, des réunions sur les lieux du travail, une fois par semaine, et j'allais régulièrement à ces réunions. Et cette dernière réunion, fin août, nous a vus, nous souhaiter adieu, etc. Et puis, se terminait calmement, et d'un seul coup, je me suis senti devenir glacé. J'étais étonné, je me dis, on est au mois d'août, il fait chaud, comment se fait-il que je sois tout glacé? Et d'un seul coup, dans cette salle de réunion, à peu près la moitié de celle-ci, c'était en fait une petite bibliothèque, je vois dans le fond un lit. Je dis, mais qui est-ce qui a mis ce lit, là? C'était net, c'était, je voyais. Et je vois un homme allongé dessus, et à mon grand effroi, c'était le directeur, qui était dans l'attitude d'un être mort. Alors, j'en suis ouvert à mes collègues. Ils m'ont dit, c'est un peu de fantasme, peut-être, c'est le chagrin de partir, tu exagères, etc. En fait, il n'y avait aucun sentiment ni de révolte, ni de colère contre ce directeur. Mais j'étais estomaqué de voir ces choses-là comme si c'était réel. Et la vision a disparu. Et je suis parti. Lorsque je suis parti, il a fallu donc rentrer en France, où toujours l'autorité scientifique qui nous avait détachés pouvait nous rappeler, et j'ai demandé un travail dans le midi de la France pour des raisons de santé. J'avais certainement du chagrin de quitter l'Angleterre car j'y laissais mes quatre enfants qui peuvent subvenir à eux-mêmes, bien sûr, mais c'était quand même l'éclatement d'une famille. En plus, je suis arrivé sur un poste qui ne correspondait pas à mes spécialités. On pouvait encore s'arranger, mais autant que je voyage avec mon déménagement, il y a eu une mésentente administrative entre deux niveaux hiérarchiques et ce poste a été fermé. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, il n'y avait plus de place. C'est comme si on avait retiré la chaise au moment où j'allais m'asseoir. Il n'y avait plus de place. Alors je suis resté des mois à tourner en rond, essayant de trouver un nouveau poste et c'était l'époque des vaches maigres. On ne créait plus de poste dans cette organisation. Il a fallu que je rentre sur la région parisienne, que j'entre sur une responsabilité encore moins de ma compétence. Et vous voyez, le cercle, la spirale commençait à s'élargir. Déjà, entre-temps, je commençais à perdre le sommeil. Perdre le sommeil et en même temps, en parallèle, être saisi par des bouffées d'angoisse. J'étais soudainement très angoissé, sans pouvoir mettre mon doigt sur la cause de l'angoisse. C'est comme si une présence mauvaise venait très proche et toujours, on est éperdu d'angoisse. On ne sait pas ce qui se passe, mais c'est terrible. Et puis ça repartait. Mais le phénomène allait en grandissant, au point que lorsque je suis arrivé dans la région parisienne, j'avais annulé tous mes engagements oratoires, sauf un, celui de Neuchâtel, pour ceux qui se rappellent, Ascension 1984, où, pour ceux qui m'ont vu, j'ai eu les plus grandes difficultés à parler, je ne pouvais plus me concentrer, ça demandait un effort terrible, et partant de là, c'était fini. Et j'avais même un engagement à la Chaux-de-Fonds, à l'église de Réveil, le surlendemain, j'ai dû annuler, car entre-temps, j'avais fait ma première crise de spasmophilie, c'est-à-dire des étouffements, une angoisse terrible, on ne tient plus en place, on marche de long en large, on étouffe. Et cette crise a pu s'arrêter grâce à l'intervention du docteur là-bas, de Cormondrèche. J'étais donc parti en grande maladie, je suis rentré dans la région parisienne, ça m'a repris au travail en plein milieu de mes collègues qui m'ont emmené à l'infirmerie. On m'a descendu chez le médecin généraliste qui n'a fait que prolonger l'ordonnance du médecin d'ici. Et j'étais officiellement déclaré en grande maladie, c'est-à-dire dépression réactionnelle aiguë. Mais ce n'était que le commencement. Car sur le long congé, qui m'était offert dans le cadre des longues maladies, je suis parti en Angleterre me disant peut-être de revoir mes enfants, me ferait du bien, et ensuite je verrai des chrétiens aussi là-bas, des chrétiens chers, dont un pasteur qui priait beaucoup pour les malades, qui avait un ministère de guérison extraordinaire, un ancien policier des services de Sa Majesté, la Reine, et un homme très équilibré, qui avait un ministère que, pour une fois, je voulais rechercher en ce qui me concernait. Et lorsqu'il vint prier pour moi, il vit devant lui un être absolument fermé. Il ne me reconnaissait plus. Car il faut vous avouer que pendant tout ce temps-là, je vous ai décrit sur le plan psychique, je ne pouvais plus réfléchir, plus me concentrer. Le plan physique, je mangeais de moins en moins, j'avais perdu 15 kilos très rapidement. Et sur le plan spirituel, le plus j'ouvrais la Bible, le plus j'étais terrorisé. Je voyais tous les versets de la Bible me juger. Et toujours cette image du bois mort, la racine, la cognée à la racine de l'arbre, le bois mort que l'on jette, tout arbre non planté par Dieu ne peut survivre. Et d'un seul coup, je découvris, peu de temps avant de partir pour l'Angleterre, à ma grande stupéfaction qu'en fait, jamais je n'avais été converti. Mais j'avais trompé tout le monde. Vous voyez déjà comment j'entrais petit à petit dans un mensonge que je ne décelais pas en tant que tel à l'époque. J'étais persuadé que cette obsession, cette fixation sur le fait que je n'étais pas converti était réelle, correspondait à une réalité. Je pouvais retracer mon enfance et dire, mais non, en fait, j'ai simulé la conversion. J'ai simulé le désir de descendre dans les eaux du baptême. J'ai simulé le fait de vouloir recevoir l'onction de puissance de l'Esprit. J'ai simulé tout ça. C'est faux. Je n'ai jamais été converti. Mais alors, et tout ce que j'ai prêché, etc. Oh mais, alors là, il va falloir réparer, je me suis dit. J'étais prêt à écrire une note circulaire à tous les endroits où j'étais passé, en leur demandant expressément de détruire tout écrit de ma part, toute cassette, toute trace de ce que j'avais fait dans les lieux où j'étais passé. Et de plus en plus, je descendais la spirale. Je ne pouvais plus ouvrir la parole, je ne pouvais plus prier, j'étais terrorisé. J'avais une impression de jugement terrible sur moi, et à la fin, je trouvais une sorte de résignation, dans le sens que, bon, ça y est, j'allais être jugé, mais ce qui me remplissait d'effroi, c'est que je savais aussi que, puisque moi j'étais jugé, tous les miens allaient être alignés sur le même peloton, et que ma femme allait mourir, que mes enfants allaient mourir. Et même, d'un seul coup, je réalisais que je pouvais même, que j'allais, c'est moi qui allais faire mourir ma femme, j'allais l'assassiner. Et je ne pouvais plus voir un couteau de cuisine. Il fallait que je cache toute arme susceptible de tuer quelqu'un dans un couteau. Vous voyez, les obsessions commençaient, les fixations, les angoisses, tout ça tournait. Et c'est à ce moment-là que je vis ce pasteur qui réalisa tout de suite dans quel état je me trouvais et qui, avec beaucoup de sagesse, au lieu de faire de grands discours, simplement affirma les vérités de base de l'Évangile. Il me rappela que j'étais enfant de Dieu et que, quel que soit le mensonge dont m'entourait Satan, eh bien, j'étais toujours un enfant de Dieu. J'étais assiégé, et c'est ça le secret. C'est là une des réponses fondamentales. Comment un chrétien peut-il être déprimé, entrer dans la dépression? La différence fondamentale entre celui qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas, c'est la suivante. Ça commence par une mise en siège. Vous savez, une forteresse assiégée de tous les côtés. Une ville assiégée par terre, par mer, par air. Plus de moyens de communiquer avec le monde extérieur. C'est arrivé à Leningrad en 1941, lorsque les nazis assiégeaient Leningrad, et cette ville était absolument coupée du monde extérieur. Eh bien, de la même façon, j'étais assiégé, et celui qui ne croit pas est assiégé de la même façon par les forces de l'adversaire. La différence fondamentale, c'est que Satan ne peut pas entrer dans la citadelle d'un enfant de Dieu. Car lorsqu'on est enfant de Dieu, à moins d'avoir renié ouvertement l'œuvre de la croix dans sa vie, on reste enfant de Dieu jusqu'au bout. Et Satan ne peut pas prendre cette citadelle. Mais il s'y emploie pour infiltrer le mensonge et toutes sortes de délations, etc., au point que vous ne savez plus du tout où vous trouvez. Alors que celui qui n'est pas enfant de Dieu, un jour il entre dans la citadelle, et à ce moment-là, il y a possession diabolique. Il y a des gens qui se suicident, ou qui perdent complètement la raison, qui deviennent aliénés mentales irrécupérables, c'est bien connu des psychiatres, ce passage où ils deviennent totalement irrécupérables. mais il y a toutes les phases intermédiaires. Et la médecine s'emploie à essayer de sauver le patient avant que cette phase terminale n'arrive. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde de la lutte contre les esprits au niveau d'une psychiatrie moderne, même moderne? Alors, ce pasteur vit tout cela, affirma donc ses vérités, comme quoi j'étais enfant de Dieu, mais le mensonge qui m'avait entouré était tellement fort que j'étais persuadé que c'est lui qui mentait par gentillesse pour moi. Que cet homme avait vu, en fait, que jamais je n'avais été sauvé, mais que par gentillesse pour moi, me sachant condamné, eh bien, il voulait en quelque sorte atténuer, adoucir la fin de mon existence en me prodiguant ses paroles. Vous voyez comment les choses étaient retournées. Alors, il pria pour moi, il m'imposa les mains, mais au lieu de prier comme il le faisait d'habitude, d'un seul coup, cet homme s'effondra en larmes. Je crois que de ma vie, je n'ai jamais vu un homme pleurer de cette façon. Il fondait littéralement. Il ne pouvait même pas retrouver son souffle, et pendant plusieurs minutes, il fut dans cet état. Et lorsqu'il recouvrit ses esprits, il me dit, j'ai reçu une telle conviction de l'amour de Dieu sur vous, frères, que jamais, au grand jamais, le Seigneur ne vous abandonnerait, que je ne pouvais plus tenir, j'ai fondu. Je n'ai jamais eu une conviction de l'amour de Dieu sur cette dimension. Je ne l'ai pas cru. J'étais persuadé que ses larmes ne faisaient que confirmer le fait qu'il avait pitié de moi et que sa pitié avait atteint un paroxysme où on ne pouvait plus se retenir de pleurer. Alors, la suite, je vous laisse à imaginer, ça a été une glissade épouvantable. Épouvantable car si je souffrais spirituellement, le psychisme s'en ressentait. Au bout de quelques mois, je ne pouvais même plus écrire une phrase cohérente, même plus lire, même plus parler, j'avais perdu ma voix. J'étais dans une véritable épave qui se levait le matin, je ne vivais que par somnifères, les antidépresseurs, anti-anxiolytiques ne faisaient plus aucun effet. Ça faisait longtemps que j'étais passé, en fait, ils n'avaient fait d'effet que pendant une semaine, 15 jours, et j'étais malade pendant 14 mois. Je ne vivais que par coup de somnifères hypnotiques, c'est-à-dire un somnifère assez fort, qui, lorsque vous le prenez, dans les minutes qui suivent, vous tombez raide de sommeil. Et vous vous réveillez exactement de la même façon 5 ou 6 heures après. Et je marchais à la dose maximale pendant tout le temps de ma maladie. Il y a des effets secondaires qui démolissent la mémoire, l'intelligence et d'autres aspects du psychisme. Donc, en général, il est conseillé de ne pas prendre trop de ces médicaments. Mais moi, j'en prenais, c'était ma seule façon de tenir face, au moins pendant 5 heures sur les 24, à l'angoisse, en disparaissant dans un sommeil hypnotique. Le reste n'était que terreur. Terreur. J'étais tendu de bout en bout, et à force d'être tendu, je fis des crises psychosomatiques, de colis néphrétiques, de tachycardie. Tout se déréglait dans mon corps. Tout. Je ne pouvais plus manger. J'étais devenu terrible sur le plan comportement humain. Il me fallait une présence. Sinon, si j'étais seul, j'étais absolument terrorisé, tellement la présence satanique était forte. Il me fallait ma femme. Et je l'enfermais progressivement comme dans un tombeau. Je lui interdisais de sortir, de téléphoner, de parler à qui que ce soit. Elle vivait auprès de moi et elle aussi dépérissait. Elle s'accrochait, elle n'était pas prise par la dépression, mais elle était aspirée par cet entonnoir épouvantable. Elle glissait petit à petit. Et Dieu sait s'il a résisté, si son amour s'est manifesté. Et j'ai compris, seulement avec le recul, beaucoup plus tard, ce que cela veut dire le jour du mariage, lorsqu'on dit on épouse l'autre pour le meilleur et pour le pire. Elle était à la hauteur de la tâche. Je lui rends publiquement hommage ici pour cet extraordinaire dévouement qu'elle a manifesté à ce moment-là. Mais elle était terriblement secouée et j'allais encore à l'assemblée, mais j'étais terrorisé par la présence des chrétiens. J'étais persuadé qu'un jour ils me jugeraient tous. Je voulais brûler toutes mes Bibles parce que je savais que, parce que j'assassinerais un jour mon épouse, les gendarmes viendraient, feraient une enquête, on découvrirait que j'avais été conférencier, que je lisais la Bible, et cela serait monté en épingle, bien sûr, à la télévision, en disant, voyez les chrétiens, comment ils se comportent. Et je voulais pas que ça arrive, je voulais tout détruire, tout. Mais à l'époque, déjà, je n'avais plus assez de volonté. Même la volonté s'amenuisait. Elle s'est amenuisée jusqu'au point où je ne pouvais même plus conduire une voiture. Quand vous tournez un volant, il faut un effort de volonté, pour le très faible. Quand vous appuyez sur une pédale de frein, pareil. Eh bien, je ne pouvais pas le faire. Ma volonté s'était tellement amenuisée que lorsque je voyais un virage, je continuais tout droit. Je voyais un feu rouge, je continuais tout droit. Il a fallu me supprimer en quelque sorte le volant, sinon j'étais devenu danger public. Eh bien, cette volonté m'a empêché de brûler. Ce manque de volonté m'a empêché de brûler toutes mes Bibles. Et je respecte dans ce domaine. Il se passait les choses, j'en passerai. Vous savez, la présence de l'adversaire, c'est épouvantable. Il se passait des phénomènes surnaturels, d'objets qui tombent sans raison, de portes qui claquent, d'électricité qui s'éteint, de machines qui tombent en panne. Je pourrais vous en raconter, c'est horrible ce qui s'est passé. Une véritable une maison hantée, en quelque sorte. Les gens qui venaient étaient mal à l'aise, il fallait qu'ils repartent vite. Ma propre mère est venue, n'a pas pu tenir plus de 10 minutes, alors que ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas vu. C'était épouvantable. Et alors, la vie était devenue tellement impossible qu'à la fin, je décidais, le tout pour le tout, d'aller voir un psychiatre de préférence chrétien. J'étais contre tout ce qui était psy, parce que, non pas qu'il ne fasse pas un travail intéressant, mais il ne voit qu'un versant de la nature humaine. Or, je sais que tout le problème se trouve dans le domaine spirituel, et que le psychisme et le corps ne font que traduire, écrire d'une façon visible le fond du problème qui est au-delà de la science, que la science n'atteindra jamais. Alors il me fallait, à la limite, un psychiatre chrétien. Grâce à Dieu, j'en ai trouvé un à Cognac. Et j'allais vite le voir. Il m'a reçu d'une façon extrêmement gentille. C'était un homme très compétent, qui était utilisé souvent par la police dans des cas difficiles de tueurs fous, parce qu'il avait une maîtrise extraordinaire. Il faisait de la recherche psychiatrique. Il était contre toute psychothérapie. Lui, sa branche, c'était la chimiothérapie. Il explorait des voies nouvelles. Et lorsqu'il vit ma condition, il lui fallut 10 minutes, en fait, pour le voir. Il me demanda de repartir dans la salle d'attente. Il appela mon épouse et lui dit ceci. Eh bien, c'est beaucoup plus grave que je croyais. Dans 2 ou 3 mois, si votre époux était resté sans soins, il était perdu définitivement. Car, en effet, à 2 reprises, j'avais eu ce décantement. C'est-à-dire, à 2 reprises, quoique brève, je réalisais d'un seul coup, je ne savais plus où j'étais, ni qui j'étais. J'avais perdu le sens de mon identité. Et ça, il paraît que c'est des signaux d'alarme avant l'aliénation définitive irréversible. Donc j'en étais plus qu'à quelques mois. Alors vite, il dit à ma femme, il faudra certainement plusieurs mois, voire plusieurs années de traitement. Je ne suis pas sûr, je ne garantis aucun succès, chimiothérapie, hein, pas psychothérapie, parce qu'il n'y croyait pas, tout au moins à ce niveau-là, et il me prescrit un médicament assez nouveau, qui n'était même pas encore sur le marché de la pharmacie française, qui venait des États-Unis. Et je reçus ce médicament le 3 mai 1985. Je retournais dans un lieu qu'un pasteur nous avait prêté, un lieu de vacances sur la côte, et je commençais à prendre ce médicament le 4 mai, le lendemain. Ça se passait un samedi, le 4. Le mardi matin, 7 mai, et pourtant, entre les deux, le 5, le 6, rien ne s'était passé, j'étais pire que jamais, je voyais des cambrioleurs partout, il fallait que je ferme tous les volets, toutes les portes, ne serait-ce que pour aller faire des courses. Vous voyez, ma femme, je ne sais pas encore comment elle tenait, par la grâce de Dieu, certainement. Et le lendemain matin, le 7 mai, je me réveille, j'étais un homme complètement différent. D'un seul coup, toutes les angoisses étaient parties, non pas pendant que j'étais éveillé, mais probablement pendant mon sommeil, je ne sais pas. J'avais pris comme d'habitude mon somnifère, que je ne quittais plus depuis 14 mois. Toutes les angoisses étaient parties. Toutes les obsessions, les fixations, tout cela était envolé. J'avais une telle, je dirais, certitude, assurance de l'amour de Dieu, une telle soif de la parole, moi qui n'osais plus ouvrir la Bible. Et quand je l'ouvrais, seulement à ce moment-là, se passaient ces phénomènes surnaturels dont je vous parlais, parce qu'il semblait que je forçais l'adversaire à accepter le fait que j'ouvre la Bible. Eh bien, cette fois-ci, j'ouvrais la Bible et je bus à grands traits. Comme la source d'une eau absolument nouvelle, fraîche, pendant 2 heures, et la méditation qui a suivi, le partage avec mon épouse qui n'en revenait pas. Qu'est-ce qui s'était passé? Mais le psychisme et le corps étaient encore atteints. La guérison avait germé à l'endroit essentiel, l'esprit. J'étais délivré du siège de l'adversaire. L'adversaire avait replié ses armes et ses bagages, était parti d'un seul coup. Alors, il a fallu 3-4 semaines pour que je retrouve mon psychisme normal. Mon intelligence s'est remise progressivement à fonctionner. Je sentais comme des déclics dans ma tête, je voyais même des éclairs dans mes yeux. C'est comme si dans ces millions de connexions au niveau des neurones, tout se refaisait petit à petit. Je vivais une guérison sur le plan psychique étalée sur 3-4 semaines. Quant à mon corps, il a fallu à peu près 4, 5, 6 mois pour le rétablir encore. Il me reste une assez grande fatigabilité, mais c'est tout. Voilà ce qui s'est passé. Peu de temps après ma guérison, j'appris dans des circonstances un peu bizarres.
Nous allons lire dans la parole.
L'annonce de la mort du directeur. Il était mort d'une crise cardiaque. Envers et contre toute espérance, personne n'y pensait. Et déjà, mes collègues, avant même qu'ils ne soient enterrés, travaillaient déjà à ce que je sois rappelé au projet. Car ils avaient compris quel était le conflit qui avait eu lieu entre lui et moi. Voilà la trame des événements. Il y a déjà une réponse que je vous ai donnée au niveau comment un chrétien peut-il être atteint par la dépression. N'oublions pas que même dans l'Ancien Testament, le prophète Élie, le roi David et tant d'autres ont subi la dépression, ont connu ces moments de coupure complète. Et en fait, je crois que le Christ l'a pris sur la croix cela aussi. Il a connu un moment de coupure totale avec son Père. Il n'avait plus de communion du tout avec son Père. Et pour lui, ça lui coûtait certainement beaucoup plus que pour moi, car lui avait une communion parfaite avec son Père. Il a connu ces moments. Mais quel est le sens, et je voudrais terminer là-dessus, simplement vous dire ceci, comme nous l'avons lu, comme nous l'avons dit, l'épreuve a un sens extraordinaire. Et je l'ai compris par la suite, car tout de suite la question se pose, mais comment se fait-il, Seigneur, que cela me soit arrivé? Quel est le sens? Si tu as permis cette épreuve, pourquoi? Eh bien, il me l'a montré par un phénomène surnaturel, une vision. J'en ai rarement. Mais là, je me vis en train de marcher et j'entendis quelqu'un me dire « Regarde ta main droite ». Je la regardais et il manquait l'index. Immédiatement, la question me vint « Mais où est-il? Qu'est-ce qui s'est passé ?» De nouveau, la voix répond « Regarde autour de toi ». Et je vis cet index tourner autour de moi à la manière d'un satellite. Et deux questions me furent posées et la vision s'évanouit. La première question était, crois-tu que ce doigt va survivre longtemps, détaché de la main? Deuxième question, comment crois-tu que le corps réagit avec ce doigt qui lui manque? Et j'avais compris. Il n'a pas fallu des jours, ni même des heures, en quelques minutes je compris. Je jouais, malgré moi, un jeu extrêmement subtil où je m'étais détaché, et là vous voyez, je me confesse devant vous là, je m'étais détaché du corps de Christ, j'appartenais, mais je ne voulais aucune interférence du corps de Christ dans ce que je faisais. Je m'estimais simplement en position de donner raison de ma foi dans des conférences publiques, et surtout, ne priez pas pour moi, c'est pas la peine. Si vous voulez, vous pouvez le faire, mais je ne demanderai pas la prière. Eh bien ça, c'était se moquer du corps de Christ. Car nous faisons partie de ce corps. S'il a établi les uns comme apôtres, docteurs, c'est pas pour rien. Ils sont pas détachés, ils sont dans le corps. Ils ont besoin du soutien de Dieu à travers le corps de Christ. Et moi, en tant que doigt séparé du corps, je ne pouvais pas survivre. J'étais devenu une cible idéale pour l'adversaire et il m'avait descendu en flammes. Deuxièmement, le corps, sans moi, il lui manquait quelque chose. Je le compris très vite. Et la deuxième constatation que je fis beaucoup plus tard, c'est que cette épreuve a développé en moi, a affiné en moi un sens aigu de la présence du mensonge, non seulement dans la société, mais dans l'Église. Les mensonges et formes de mensonges les plus subtiles que Satan peut infiltrer dans le corps de Christ, et j'en toucherai un mot peut-être lundi, au niveau de ce qu'on appelle la guérison intérieure. Voilà, sous prétexte de cure d'âme, on a fourré ça là-dedans, mais ça n'a rien à voir. Sous ce prétexte, on a voulu, enfin l'adversaire a infiltré et continue de faire, dans l'Église, au niveau d'une psychothérapie soi-disant chrétienne, l'une des œuvres les plus néfastes qu'il ait jamais montée contre le corps de Christ. J'en toucherai un mot. Mais ça, je l'ai décelé, et d'autres encore formes. Et je réagis d'une façon extrêmement... C'est plus fort que moi. Je le sens maintenant, je ne le cérébralise pas, je le sens tout de suite. Et le Seigneur me le montre. Et surtout, il m'équipe pour le dénoncer. Oh, ce n'est pas une tâche facile, parce que vous vous mettez à dos beaucoup de gens. J'aimerais dire à ceux qui se croient chargés de cure d'âme, ou même simplement d'aide, vous ne pourrez pas aider une personne déprimée. C'est impossible. Il faut franchir les murs de la citadelle. Et rappelez-vous qu'entre vous et cette personne, il y a l'ennemi. On ne peut pas dire à un déprimé, secoue-toi, ça ira mieux. Ça ne marchera pas. La dépression va durer son temps, tout ce qu'on peut faire, c'est prier. Car avec le recul du temps, je fais le dénombrement de tous ceux qui avaient prié. Je sais que beaucoup d'entre vous, sinon tous, avaient prié pour moi. Plus de 30 000 personnes avaient prié pour moi. Au point que certains s'étaient découragés parce qu'ils ne voyaient aucun résultat. Mais le résultat, c'est l'affaire de Dieu. Nous, tout ce que nous pouvons faire dans la dépression, c'est prier. Surtout, nous ne prodiguons aucun conseil, n'essayons pas de secouer le malade, c'est impossible. C'est une maladie très spéciale, qui est d'ailleurs en passe de dépasser le cancer au point de vue pourcentage. Je sens que maintenant, avec ce que j'ai vécu, je peux aller très loin. Je peux aller très loin, je maintiendrai ce que j'ai à dire, je le dirai, quel que soit le prix que cela me coûte, car je sais qu'à long terme, c'est la lumière qui jaillira dans le corps de l'Église et elle rejettera le mensonge. Que Dieu soit béni, qu'il vous soit en aide dans vos épreuves, toute épreuve a un sens, merci Seigneur.